L'été est le temps des messages envoyés. Souvent séparés de nos plus ou moins proches, nous recevons des nouvelles. Cela va du simple SMS, bien arrivé, mer chaude, ciel bleu, bisous, aux longues lettres racontant les activités heure par heure de toute la famille et les repas par le menu. Et en ce dimanche matin estival, ce n'est pas une banale carte postale de vacances que nous recevons. C'est une bien curieuse lettre, une lettre destinée à l'ange de l'église des Laodicéens, une communauté du christianisme naissant. Une lettre que nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse. Rien que le nom de ce dernier livre de notre Bible peut faire frémir. L'Apocalypse, où Jean de Patmos écrit aux anges des églises, où nous voyons des cavaliers se lancer dans d'incroyables chevauchées, où sévissent toutes sortes de créatures comme des dragons. Est-ce bien raisonnable de lire un tel texte ici, en ce début de XXIe siècle ? Raisonnable, je ne sais pas. Mais beaucoup me portent à croire que ces textes, parfois si étranges au premier abord, peuvent en réalité faire résonner dans nos vies une vraie bonne nouvelle. Pourquoi ? Pourquoi cela vaut le coup de s'attaquer de temps en temps à des textes un petit peu indigestes ? Eh bien d'abord, tout simplement parce que nous croyons que la parole de Dieu, donnée à travers les textes bibliques, peut aussi nous interpréter, dire quelque chose sur notre vie. Ainsi, en lisant aussi ce texte de l'Apocalypse de Jean, nous croyons que nous pouvons lire des enseignements, des exhortations, des encouragements pour chacune de nos vies. Et puis, très bêtement, l'Apocalypse fait bien partie de notre Bible. Elle a été choisie, retenue dans le canon biblique. Ce livre du Nouveau Testament annonce le crucifié ressuscité que nous croyons et que nous confessons. Il est donc juste et bon de pouvoir le lire pour en tirer profit pour notre foi. Il est d'ailleurs amusant d'apprendre que notre cher réformateur Martin Luther déconsidérait complètement ce livre de l'Apocalypse. Il disait en aucune manière ressentir que le Saint-Esprit avait pu produire ce livre. C'est vous dire qu'il était quand même compliqué, et il l'est toujours. Mais je crois que s'il est vrai que ce livre demande un effort particulier aux lecteurs que nous sommes, il nous récompense par une bénédiction, elle aussi, toute particulière. Alors plongeons-nous dans cette lettre adressée à l'ange. Nous lisons au tout début, « Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. » Première difficulté, l'Amen. Ce « en vérité », cette conclusion habituelle de nos prières, se retrouve ici en sujet. Il est sujet de la phrase. Eh bien, ce « Amen » personnifié fait écho à ce que Jésus répète souvent quand il prend la parole. Vous savez, il dit « Amen, Amen, je vous le dis » et puis il parle. Il affirme ainsi être lui-même la vérité. Et on retrouve cette parole dans le livre du prophète Ésaïe. « Quiconque voudra se bénir sur la terre se bénira par le Dieu de l'Amen. Quiconque jurera sur la terre jurera par le Dieu de l'Amen. » Et dans un écho à ces paroles d'Ésaïe, le rédacteur de la lettre dresse donc une parole sur le Christ. Et il nous dit « C'est à travers le Christ, le « en vérité », le « Amen », que la communauté peut trouver accès à Dieu. et que lui est donnée aussi une possibilité de répondre en tant que fidèle. Une autre difficulté du texte que nous sommes obligés de partager réside dans la violence des propos de ce livre de l'Apocalypse. Ici, vous l'avez entendu, « je vais te vomir ». C'est peut-être un peu dur à entendre. Rejet le plus profond du sujet incriminé. Toute l'église de Laodicée est sévèrement jugée. La condamnation est sans appel. Qu'a-t-elle fait pour mériter un tel jugement ? Pourquoi on entend « je vais te vomir » ? Souvenez-vous, tu n'es ni froid ni bouillant. Alors, avant de faire vibrer l'accusation dans nos vies, puisque j'ai dit en début que cela pouvait parler pour nos vies, n'est-ce pas ? Essayons de voir ce que l'on reproche à cette Église. Cette lettre est la dernière d'une série de sept. Ces sept lettres nous peignent un tableau précis du danger qui menace les Églises. Il s'agit d'un christianisme qui n'estime pas nécessaire de marquer de façon trop nette les frontières entre l'Église et le monde, entre leur foi chrétienne et la quotidienneté dans laquelle ils sont marqués par l'idolâtrie. Ces reproches s'adressent à ce contexte précis. La tiédeur désigne le manque d'intransigeance de certains chrétiens qui s'accommodent des idoles de ce temps. Ils se déclarent oui pour le Christ, ils le confessent, mais en même temps, ils n'ont rien contre l'adoration d'une autre divinité de temps en temps. Alors d'un côté, ils sont bouillants, brûlants, quand ils confessent le Christ, mais de l'autre, ils sont aussi froids quand ils décident d'adorer d'autres dieux. Et là, le principe est simple. Si vous mettez du froid dans du bouillant, le résultat est une eau tiède, n'est-ce pas ? Foi brûlante plus foi fraîche égale foi en demi-teinte. Et pour l'auteur de cette lettre, cette équation est insupportable. Esprit d'absolu, il ne tolère pas l'entre-deux. Il ne tolère pas la tiédeur. Soit cette communauté est du côté des froids, des païens idolâtres, et elle l'assume, soit elle est du côté des chauds, et elle répudie l'idolâtrie. L'amen, le témoin fidèle, ne supporte pas la demi-mesure. La condamnation est donc sans retenue. Alors maintenant, cela serait très facile de sauter sur cette occasion pour fustiger aussi la tiédeur de nos propres pratiques. Condamner le fait que, oui, nous confessons le Christ avec ferveur, mais quand même, de temps en temps, dans notre quotidien, nous préférons éviter le témoignage. Il serait facile de nous traiter de tiède et de nous condamner allègrement. Nous pourrions nous lancer des accusations sans fin. Mais pourtant, je crois que si nous décidions de faire cela, ce serait trahir le sens du texte. Pourquoi ? Très simple. La condamnation des Laodicéens vient de l'amen, vient du témoin fidèle, et pas d'un quelconque pasteur, ni d'un prédicateur, ou même d'un ami. Ne laissons personne, parce qu'il se croit peut-être avoir mieux compris que nous, condamner et juger la foi d'autrui. La foi, ce que nous avons dans notre cœur, est une affaire entre Dieu et nous. C'est tout. Et cela est très, très important. Ce serait d'ailleurs aussi passer bien vite sur la question du discernement, à savoir, mais qu'est-ce que c'est qu'être tiède ? Et dans ce texte, la tiédeur vise aussi l'hérésie de ce temps que l'on appelait la gnose. les gnostiques prônaient d'accéder à une certaine forme de richesse spirituelle, une connaissance plus élevée réservée à une élite. Et dans cette spiritualité, les personnes qui accorderaient trop d'importance au matériel ou à la chair sont tenues en abomination. Et là, l'ange, justement, contredit cette façon de penser en leur disant « La seule véritable richesse, c'est la parole, c'est l'Amen, le véritable. » Alors, je crois que ce texte, effectivement, plutôt que de nous condamner, nous invite au discernement de nos propres tiédeurs. Et cet examen ne peut être fait que par la communauté dans son intégralité. Être brûlant ne signifie pas rester tout le temps dans les clous, suivre une éthique soi-disant parfaite. Non, être brûlant, cela signifie avoir le désir de vivre en Christ, en assumant que nous n'y arrivons jamais complètement. Il n'est pas grave de se retrouver face à l'Amen, mais ce qui est plus embêtant, c'est quand nous ne le voyons pas. C'est alors que nous devenons tièdes. Car cet Amen, ce Christ, n'est pas un implacable accusateur, celui qui vous met la tête sous l'eau pour étouffer la vie. Il n'est pas celui-là. Vous avez entendu dans le texte, il est dit « Tous mes amis, je les aime et je les corrige. » Alors bien sûr, c'est peut-être difficile d'entendre cela aujourd'hui. On n'aime pas être corrigé. À une époque peut-être où tout est permis, affirmer des limites, cela est parfois difficile. Pourtant, je crois qu'il y a une voie de vérité à choisir. Entre celle du grand accusateur, qui comptabilise nos fautes avec plaisir pour mieux nous tenir sous sa coupe, et entre le laxisme de ceux qui pensent qu'être chrétien, c'est facile, c'est une chose donnée, sans effort, une grâce à bon marché qui n'a aucune exigence et aucune limite, eh bien, cette voie, c'est peut-être la repentance, la reconnaissance de nos fêlures pour aller vers la vie. Et la repentance, c'est à chacun de nous, à nous seuls, d'en prendre la responsabilité et la mesure. L'offre est là. Et chers amis, elle est douce comme le miel. Au verset 20, Marie a lu « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Et je prendrai le repas avec lui et lui avec moi. » Vous l'entendez, cette offre est celle d'entrer. C'est une voix qui résonne « Voici, je suis à ta porte. » Une décision d'ouverture, la simplicité d'un repas partagé entre amis. C'est pour maintenant. Il nous appelle. Amen.